Un livre est un objet digne de respect.
Absolument.
Comme un in-folio.
Chronique du professeur in-folio. L'époque n'est plus à la débauche. Les astres, les cieux, que dis-je, l'univers entier nous punit. Il est temps d'élever nos esprits. J'ai donc sorti de ma bibliothèque livret d'enseignement moral par Georges Lemoine, non daté mais catalogué de 1902. Son sous-titrage, Esprit laïque, exposé méthodique, 37 questionnaires, 158 exercices de réflexion et 56 sujets de rédaction. C'est un format N12, 10 cm par 15, de la librairie de la Grave, 48 pages. La couverture est en carton épais avec en haut écrit « Livret pour le certificat d'études ». Je vous le rappelle, ce sont les 12-13 ans. En dessous, les titres, auteur et sous-titrage, en partie basse, il y a le nom et l'adresse de l'éditeur. Sur la quatrième de couverture, mais aussi exceptionnellement sur la seconde et la troisième, sont proposés les titres et prix des dernières parutions scolaires de la librairie de la Grave. À cette époque-là, on bossait. La coiffe et le mort sont consolidés par une toile ocre solide. Le papier est un velin de bonne qualité. Alors j'ai choisi ce livre parce qu'il se trouve à la croisée des chemins de l'histoire. C'est la séparation, la rupture approche, une nouvelle ère se prépare. J'explique. Au gouvernement de l'époque, Jules Ferry est déjà parti. Valdec Rousseau est au pouvoir. Émile Combe est aux affaires de l'éducation. Aristide Briand va bientôt arriver. Grâce au premier, c'est la création des lycées pour les filles, l'instruction civique remplace l'éducation religieuse, l'école est gratuite pour les 3-6 ans, et elle devient obligatoire jusqu'à 13 ans. Tout ça pour le même homme. Le second, Valdec Rousseau, fait voter la loi 1901 sur les associations que tout le monde connaît. Le troisième gère à suivre le cas des congrégations religieuses qui avaient quelques soucis avec la loi de 1901. Le quatrième fera voter la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. 25 ans que durait cet imbroglio. Désormais, le divorce est consommé et la religion est confinée dans ces églises. Vous remarquerez la justesse du texte au regard de la situation. D'où le sous-titre « Esprit laïque ». Fini la morale chrétienne. Il faut en construire une autre basée sur la raison. C'est le maître mot. Souvenons-nous du temple de la raison dans la cathédrale de Paris sous la Révolution. Dans un livre de classe de 1894, première lecture sur les connaissances usuelles, au chapitre « L'homme, maître la nature », on y lit « La terre est peuplée partout d'hommes comme nous, nos égaux, nos frères devant Dieu. » Et dans celui sur la vie des animaux, leurs organes, semblables aux nôtres, sont construits pour la vie matérielle. Mais nos organes à nous, qui sommes faits à l'image de Dieu, sont construits pour la vie intelligente. Et ils y croyaient, les bougres. 1894. Parallèlement, en 1902, 8 ans plus tard, dans la préface du livret d'enseignement moral, on lit qu'on ne cherche pas dans ce livret des réponses de catéchisme ou des recettes pour apprendre la morale. Faire chercher, faire trouver, faire comprendre, faire agir, voilà le but que nous avons poursuivi. Le livret d'enseignement moral que vous avez dans les mains est empreint d'un esprit essentiellement laïque. Nous croyons l'excellence de la raison. Dans les écoles de la République, on doit enseigner une morale républicaine. Il ne s'agit plus, désormais, de former des sujets passifs et dociles, mais d'élever des citoyens, des hommes libres et raisonnables. Ça, au moins, c'était clair et implacable. Nous allons donc tâcher maintenant de réfléchir et de comprendre, puisque c'est le sujet, et nous allons commencer par les principes. Le livre définit les 3 facultés de l'âme. Intelligence, sensibilité, activité. Alors là, L'Église qui s'était déjà appuyée sur Aristote, la République ne fait guère mieux avec ces trois mots qui sont ceux qui donnent les niveaux de l'âme selon Aristote. Il définit ensuite les principes fondamentaux de la morale devenue laïque, dignité, justice, solidarité, charité. Voyons maintenant comment tout ça se décline au quotidien. Nous allons commencer par l'enfant et la famille. Comment nous devons témoigner à nos parents respect, amour, reconnaissance? Ce sont trois mots qui apparaissent dans tout le livre régulièrement. On témoigne son respect envers ses parents en leur parlant sur un ton poli et convenable, en écoutant toujours avec déférence leurs avis et leurs conseils, en ne jugeant pas leurs actes, en ne critiquant pas leurs défauts. Ça me paraît important en ce temps de confinement. Dans le chapitre « Travailleurs », les serviteurs et les maîtres, une obligation réciproque est imposée aux serviteurs et à leurs maîtres, remplir les engagements qu'ils ont pris l'un envers l'autre. D'une part, le travail du serviteur, son dévouement aux intérêts du maître, d'autre part, le salaire payé exactement par le patron. Mais dans celui concernant les ouvriers et les patrons, il est dit, les ouvriers ont des obligations du même genre que celles du serviteur, mais ils ont droit à une indépendance complète lorsqu'ils ont quitté l'atelier. Ce qui semblerait vouloir dire que les serviteurs, eux, sont toujours corvéables. Passons maintenant aux citoyens et aux soldats. Dans une première partie, la question est « qu'est-ce que la patrie ?» La patrie est le pays que nous habitons. Les personnes qui y demeurent forment une grande famille dont tous les membres ont les mêmes aïeux, le même héritage de biens matériels et de biens moraux. C'est une société dont tous les membres veulent, ça s'est écrit en gros, demeurer unis pour continuer l'œuvre commencée et travailler en commun dans l'intérêt de tous. Et un peu plus loin, dans une autre partie, la patrie française, la République, tous les hommes aiment leur patrie. Nous, Français, nous avons en outre des raisons spéciales d'aimer notre pays. La France est une patrie particulièrement glorieuse par ses succès militaires, son génie artistique, son génie scientifique et surtout par l'idéal de justice et de liberté qu'elle a poursuivi à travers les âges. Aimons donc l'ancienne France comme nous aimons nos aïeux, mais aimons aussi, aimons surtout la France nouvelle, la France républicaine née de la Révolution. La France, terre de la Déclaration des droits de l'homme. Tout ça pour des 12-13 ans, je vous le rappelle. Et la conclusion du livre. Souvenez-vous que l'homme a besoin du concours des hommes, que vous avez contracté envers tous, par le fait de votre naissance et de votre vie, une dette qu'il faut payer sans relâche, car elle se renouvelle et elle ne s'éteindra qu'à votre mort. Ayez quelques amis sincères, choisis avec soin. Aimez le travail et fuyez le cabaret. Ça, pour nous, ça ne se pose pas, il est fermé. Dans la pratique du devoir, librement accepté et joyeusement accompli, vous trouverez le bonheur. Et puisqu'on va nous priver cette année du bac philo, portant fleurot de notre civilisation depuis la Grèce antique, je vous propose un exercice. Montrer qu'un honnête homme est plus grand que ceux que nous appelons en histoire les grands hommes.
Comme un in-folio.